Chapitre 4. Découverte. Quand la chaise fut sortie du parc de Clèves, Camilla ne fit plus aucun effort pour cacher ses peines. Sensible à la seule idée de paraître ingrate à Edgar, elle pleura sans contrainte, s'enfonça bien avant dans la voiture et pria Eugénia de la dispenser de toute espèce de conversation. Elles avaient fait près de 4 000 en silence lorsqu'elles aperçurent, dans la palissade du paddock, Mistress Arbery et une partie de sa compagnie. Eugénia vit avec déplaisir qu'infailliblement on remarquerait l'état de sa sœur. Elle lui proposa de faire à pied le reste de la route dans l'espérance qu'un peu d'air et d'exercice pourrait remettre ses esprits. Camilla consentit à ce que sa sœur désirait. Elles descendirent, se prirent sous le bras et avancèrent d'un pas qui convenait à l'infirmité d'Eugénia et au désir qu'avait Camilla de gagner du temps. Le bruit des voix parvint jusqu'à elle de l'intérieur du paddock, quoique l'épaisseur du feuillage les empêchât de voir les interlocuteurs. « Pouvez-vous reconnaître les armes ? » disait l'une. « Non, répondait une autre. « Moi, je vois la livrée du postillon et je suis certaine que c'est celle de Sir Hugh Tyrold. » « Il ne vient jamais ici, » dit une troisième voix qu'elles reconnurent pour être celle de Mistress Arbery. « Nous n'allons pas les uns chez les autres. Je n'aurai pas cependant de répugnance à voir le vieux baronnet. On dit qu'il est humoriste et j'ai du goût pour tout ce qui est singulier. Sa maison est remplie de femmes et je ne reçois jamais de femmes le matin que lorsque je me suis assurée de quelques hommes pour s'occuper d'elle et m'en débarrasser. » « Où donc est allé Bellamy ?» ajouta bientôt une autre voix. « Il est sorti sans dire un mot. »« Il va, je n'en doute pas, tenter une rencontre, » répliqua Mistress Arbery. « Il a, depuis le bal, des prétentions palpables sur une des divinités de Clèves. »« Divinité ? Sont-ce des divinités ?» dit la voix d'une jeune personne. « Dites-moi, je vous prie, sont-elles âgées ?»« Je crois qu'elles ont 17 ans. » 17 ans, grand Dieu, je les aurais crues plus jeunes. Je m'étonne qu'elles ne soient pas encore mariées. Je présume que vous voulez être plus expéditive, dit quelqu'un dont la voix fit connaître que c'était le général Kinsale. L'histoire veut, ajouta le général, que Sir Hugh Tyrold ait choisi une de ses nièces pour en faire sa seule héritière. Mais on ne sait pas laquelle des deux. On le dit également de chacune d'elles. « Je me suis senti du penchant pour une de ces jeunes personnes, » dit en ce moment Mistress Arbery. « Il y avait quelque chose qui me plaisait dans son regard, dans ses manières, jusqu'à me faire oublier qu'elle était plus jeune et plus jolie que moi. Mais elle a montré tant de caprices qu'il n'y a pas eu moyen d'y tenir. » Camilla, confuse, était sur le point d'inviter sa sœur à s'en retourner lorsqu'un nouveau propos attira toute son attention. « Savez-vous, général, que ce bel automate, Miss Linmer, doit épouser le jeune Mandelbert ?» Un soupir profond échappa à Camilla. Elle devint pâle, faible, et fut obligée de s'appuyer sur Eugénia, qui, effrayée de la voir dans un désordre si extraordinaire, lui conseilla de retourner à la voiture. Elle y consentit et voulut y rester seule quelques minutes. Eugénia, pendant ce temps, se promena lentement sous des arbres voisins. Camilla, ne pouvant plus se tromper elle-même, pleura sur son triste sort et sur son malheureux attachement. Elle s'envisagea comme ayant perdu tout espoir d'un bonheur personnel. Mais elle se félicita d'avoir découvert le sujet de son affliction lorsqu'elle pouvait encore éviter les dangers et les erreurs attachées à sa situation. Honteuse d'une préférence qu'elle ne croyait pouvoir obtenir que par une trahison, elle conçut le projet de suivre l'injonction cruelle de Miss Margland et le premier avis d'Eugénia, c'est-à-dire d'éviter la société d'Edgar et de ne plus rechercher son approbation. « Tel serait mon tendre père, » s'écria-t-elle, « la leçon que vous me donneriez si j'osais vous consulter. Telle serait votre conduite, ô mon honorable mère, si vous étiez dans une position aussi déplorable que la mienne. » Pleine de ces idées, abattue mais consolée, elle avait entièrement oublié sa visite et même Eugénia, lorsque ces mots se firent entendre. « Laissez-moi venir avec vous, ma chère Eugénia. De grâce, baissez les stores. » Alors elle aperçut M. Bellamy qui parlait à sa sœur avec beaucoup de vivacité. Il s'était avancé tout à coup vers elle lorsqu'elle était à quelque distance de la chaise par une ouverture du paddock qu'elle n'avait pas aperçue. Elle avait fait des efforts pour l'éviter, mais il s'était placé sur le chemin de sa retraite, et c'était avec un air suppliant, contre lequel elle voulait en vain s'irriter. Il la pria de lui permettre du moins de se conduire avec elle comme une connaissance ordinaire, et promit à cette condition de se soumettre sans murmure à son refus. Eugénia, bien qu'en elle-même elle trouvât sa demande juste, ne lui fit point de réponse. « Oh, chère miss, que j'ai souffert depuis votre barbare lettre! Pourquoi êtes-vous si aimable et si inexorable ?» Elle voulut quitter la place. « Pouvez-vous, s'écria-t-il, me traiter avec un pareil dédain ? Je vous demande seulement de m'entretenir un moment avec vous, quoique, hélas, ce soit en m'entretenant avec vous que j'ai perdu mon cœur. » Eugénia se sentit attendrie. Son visage, qui n'avait rien perdu du côté de l'expression, quoiqu'il eût perdu toute sa beauté, fit connaître à Bellamy son avantage. Il la pressa, lui peignit sa passion, déplora sa rigueur, exalta ses vertus et ses perfections, et gémit sur son malheur et sur son amour sans espérance. Eugénia, qui disait toujours la vérité, devint extrêmement affectée. « Laissez-moi passer, je vous en conjure, lui dit-elle. Monsieur, et ne trouvez pas mauvais si je ne peux vous entendre plus longtemps. » Une joie vive éclata dans les yeux de Bellamy, charmé d'une opposition aussi faible. Des prières de s'adoucir, des déclarations de son ardeur, des protestations de soumission, de respect et d'amour, assaillirent la pauvre Eugénia, qui n'en fut délivrée que par l'arrivée du major Sherwood. Le major, ayant observé du paddock la marche lente du carrosse, était sorti pour en connaître la cause. Eugénia saisit ce moment pour hâter sa marche et rappeler sa sœur. Bellamy l'accompagna sans cesser de lui parler, mais il n'osa se permettre de l'arrêter. Il lui donna donc la main pour la conduire à la chaise, où le major Sherwood vint présenter ses compliments aux deux ladies. Apprenant qu'elles allaient faire une visite à Mistress Arbery, Sherwood s'en alla devant avec Bellamy pour être prêt à les recevoir à la descente de la voiture. Elles entrèrent dans le salon pendant qu'un domestique descendit au jardin pour appeler sa maîtresse. Ce moment ne fut point négligé par les deux cavaliers. Bellamy n'était pas plus empressé d'occuper l'attention d'Eugénia que le major de forcer celle de Camilla. Celui-ci avait appris de Lionel qu'elle était l'héritière de Clèves. Il crut donc qu'il ne devait pas laisser échapper l'occasion de faire sa connaissance. La tristesse de Camilla lui parut venir de son attendrissement. Il imputa son silence à l'impression confuse que font toujours sur une beauté campagnarde et sans expérience les premières civilités d'un homme distingué par sa figure et sa galanterie. Au bout d'un quart d'heure, le domestique de Mistress Arbery revint annoncer avec quelque hésitation que sa maîtresse n'était point à la maison. Les deux cavaliers se regardèrent, se firent des signes mutuels. Camilla et Eugénia, déconcertés par un refus si évident de les recevoir, laissèrent leur nom et regagnèrent leur voiture. Le retour à Clèves fut silencieux et morne. Camilla réfléchissait sur sa situation, Eugénia était également pensive. Elle envisageait la passion et la constance de Bellamy comme l'émanation d'un cœur élevé qui méritait sa plus vive reconnaissance. À la porte, elles étaient impatiemment attendues par Sir Hugh, qui leur demanda avec beaucoup de surprise où elles avaient laissé le docteur Hogborn. « Le docteur ? » répétèrent-elles, « nous ne l'avons point vu. »« Comment ? Est-ce qu'il n'est point allé vous chercher ?»« Non, monsieur. » »« Mais il s'est rendu chez Mistress Arbery dans ce dessin. Peut-être se sera-t-il arrêté pour lire un des livres dont il a rempli la voiture. » « Il ne peut être chez Mistress Arbery, » reprit Eugénia, « nous en sortons. » On conclut alors que le docteur avait pris une autre route, car il y avait deux chemins pour aller à Grove. Edgar ne revint à Clèves que lorsque la famille était déjà réunie pour dîner. Mistress Needham l'avait raillé sur le bruit généralement répandu de son prochain mariage. Sa confusion, qui lui fit croire que sa préférence pour Camilla était découverte, servit à confirmer le bruit qui courait sur Indiana. Il s'en défendit d'un air sérieux, mais assez faiblement. Il fit même involontairement un si grand éloge de l'objet qu'il croyait qu'on avait en vue, que Mistress Needham, qu'il avait seulement désigné par l'expression d'une certaine beauté de Clèves, sourit de son désaveu et crut que ce mariage était certain. Relativement à ses informations sur le compte de Mistress Arsbury, Mistress Needham lui dit que c'était une femme plus agréable aux hommes qu'aux femmes, qu'elle avait beaucoup de coquetterie, de singularité, de bizarrerie, que, quoiqu'elle abusât de tous les avantages qu'elle possédait, elle avait un esprit peu commun. Elle ajouta qu'elle n'avait aucun vice, mais qu'elle négligeait entièrement les apparences, et que, quoique sa réputation ne fût point du tout entamée, Mistress avait offensé tous les environs par un parti constamment pris de suivre en tout ses caprices. Edgar crut avec raison cette connaissance dangereuse pour Camilla, dont la confiance et la vivacité lui faisaient redouter une extrême imprudence dans les liaisons qu'elle pouvait former. Cependant, comme la réputation de Mistress Arsbury n'était pas mauvaise, il sentit combien il aurait de peine à faire sentir à Camilla les dangers qu'il craignait. Sir Hugh, pendant tout le dîner, fut fort troublé. « Que peut faire ainsi tout seul le docteur Orborne ? » répétait-il. « C'est ce qu'il est impossible de dire. Certainement, il n'aura pas resté chez cette dame quand il vous aura vu partir l'une et l'autre. Pourquoi tous ces livres ? S'il a mal pris quelque chose, je suis prêt à lui en faire excuse, mais je ne puis deviner ce que c'est. » Comme on sortait de table, Sir Hugh reçut un billet de M. Tyrold, avec des excuses de ce qu'une affaire importante l'empêchait de se rendre à Clèves avant le lendemain. Camilla demanda la permission de l'aller chercher dans la voiture, se flattant que quelques circonstances pourraient la retenir à Essrington quand une fois elle y serait. Sir Hugh y consentit, et s'arrangeant pour aller faire sa méridienne, témoigna qu'il désirait être réveillé si le docteur arrivait. Tout le monde quitta la salle, à l'exception de Camilla. Elle prit un livre et se plaça près de la fenêtre, où son attention fut excitée par la voix d'Edgar, qui lui demandait du parc ce qu'elle lisait. Confuse à cette question, elle tourna les feuillets, regarda le titre, car elle tenait ce livre machinalement, sans savoir ce qu'il était. Alors il lui présenta le bouquet promis et qu'il avait envoyé chercher par son jardinier pendant sa course. Camilla leva doucement le châssis, lui montrant son oncle endormi. Edgar lui donna le bouquet et, lui faisant un léger salut, sans mot dire, il continua de marcher, tout déconcerté de manquer une occasion qu'il avait crue favorable pour une explication. Elle tint quelque temps le bouquet dans sa main, sans presque s'apercevoir qu'elle l'avait pris, lorsqu'elle sentit que ses fleurs étaient arrosées des larmes qui coulaient de ses yeux. Elle s'arrêta quelque temps à les considérer et, les pressant sur son sein, « J'ai pu les accepter, s'écria-t-elle, puisqu'elles m'ont été offertes avant ces cruels reproches. Ah, rien dans l'univers ne pourrait me porter à faire tort à ma cousine. J'ai de l'estime pour Edgar et j'en aurai toujours. Ces fleurs me sont plus précieuses puisqu'elles viennent de sa main, puisqu'elles ont pris naissance sur la terre qui lui appartient. Où donc est le crime d'une telle préférence? Et parmi ceux qui le connaissent, qui pourrait m'en blâmer ?» Sir Hugh, réveillé brusquement, s'écria tout à coup « J'ai justement trouvé la raison pourquoi ce pauvre docteur est parti. En emportant ses livres, il a voulu me donner un avertissement qu'il n'avait pas une bibliothèque assez considérable pour les placer. C'est ce dont les domestiques sont forcés de convenir eux-mêmes. Je vais donner sur le champ des ordres pour réparer cette faute. » En cet instant, Miss Marland rentra dans la salle. Frappée de l'air de passion et de mélancolie dont Camilla se penchait sur son bouquet, elle lui demanda brusquement d'où venaient ses fleurs. Camilla devint rouge et ne put répondre. « Oh, Miss Camilla, Miss Camilla, ces fleurs ne doivent-elles pas appartenir à Miss Winmer ?»« Monsieur Mandelbert me les avait promises hier matin, » répondit Camilla d'une voix qui se faisait à peine entendre. « Fort bien, Miss, cette conduite est honnête. J'en ferai juge Sir Hugh lui-même. Croyez-vous, monsieur, que Miss Camilla puisse chaque jour recevoir des fleurs de M. Mandelbert quand Miss Winmer n'en a jamais reçu une seule ?»« Mais ce n'est pas la faute de Camilla, Miss Margland, si le jeune Mandelbert l'a choisie pour lui donner ses fleurs. Cependant, si cela tourmente Indiana, je suis sûre que ma nièce les lui verra porter avec le plus grand plaisir. Qu'importe qu'une légère odeur soit sur le nez de l'une ou de l'autre. » Miss Marland, triomphante, avança la main. La décision fut prompte. Camilla lui remit les fleurs et courut à sa chambre. « Le sacrifice, s'écria-t-elle, est complet. Edgar va croire que je le hais et qu'Indiana l'aime. Oh, il n'en est rien. Il est juste néanmoins qu'ils croient l'un et l'autre. Je supporterai ce dernier malheur et demain matin, je quitte cette fatale maison.